J'ai vu qu'il commençait ciné-ado.
Oui.
C'est chouette.
Oui.
T'as toujours des surprises dans cette édition, c'est toujours un plaisir.
Je sais pas si on s'entend.
C'est là, oui.
Moi j'ai bon là.
Oui, oui.
Et toi, Muriel?
Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vous ai.
We are going to see.
Let's go see.
So? Vous avez tous reconnu le générique de votre émission cinéma préférée, Zoom & Co, une émission présentée par...
Muriel, du Muriel. Cinéma.
Eh oui, que tout le monde connaît. Hein.
Et Annick, du club ciné MJC. Bonjour à vous.
Et Didier, de Zoom & Co et de Radio Larzac, avec aujourd'hui un guest star, Philippe Ferret.
Bonjour.
Qui nous vient de...
Beyond Jazz.
Ah, super.
Voilà.
J'ai l'impression qu'on va parler musique.
Mmh. Et c'est pas pour même... te déplaire, je crois.
Ah ouais, non, moi j'adore ça. Bon, enfin, il faut quand même aller au cinéma.
Bien sûr, hein, quand on peut allier les deux, c'est formidable.
Voilà.
Donc un Zoom & Co qui va beaucoup parler de documentaires, pour de bonnes raisons, bien sûr, pour une programmation qui va lui faire une place belle, mais aussi pour un événement qui nous a un peu ou beaucoup attristés. Hein, je veux parler de...
Bien sûr, on parle de Frédéric Wiseman, qui nous a quittés en février, à l'âge de 96 ans, quand même.
C'est pas mal.
Ouais.
Ah oui,
et il nous a laissé donc quand même 43 documentaires et, peut-être moins connu, deux films de fiction.
Oui. Et il a même inspiré une pièce de théâtre
Avignon,
qui a été
oui.
récompensée à Avignon. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais certains l'ont beaucoup aimé. Et j'ai retrouvé une petite phrase avant qu'on revienne sur sa destinée, sur son histoire, que je vais vous lire parce que j'ai trouvé qu'elle résume bien ce qu'il était pour nous. « Quand on cherchera un jour à savoir à quoi ressemblait la civilisation occidentale de la seconde moitié du XXe siècle, on se penchera certainement sur l'œuvre immense du documentariste américain Frédéric Wiseman, bon, et qui bien sûr vient de nous quitter. » Alors j'avais une deuxième remarque, c'est que ces documentaires, cette programmation documentaire, elle est vraiment importante et... Pour moi, Wiseman l'a été beaucoup parce que sans la MJC et sans le cinéma d'art et d'essai...
Sans le club ciné de la MJC...
Le club ciné, oui, pardon, ouais, so sorry. sans cette programmation qu'on pouvait penser comme étant pointue, ben, jamais je n'aurais découvert ce cinéaste parce que, bon, on fait des documentaires, mais c'est un vrai cinéaste. Hein.
C'est vrai qu'on a eu le plaisir, ouais, on a eu le plaisir avec le club ciné MJC de passer et de programmer grâce à Muriel Welfare. Donc, qui est un documentaire sur la sécurité sociale aux États-Unis. Et on a eu aussi le plaisir de passer Hospital,
oui.
Donc sur l'hôpital à Chicago, des soins intensifs. Et donc, ça.
Law and Order.
Law and Order aussi, qui était.
Hein, sur l'application ouais. des lois. Et puis, Juvenile Court.
Ben, il nous a fait. En 1969, il y avait Law and Order. Qui est le quotidien d'un commissariat de police à Kansas City. Il y avait le tribunal pour mineurs de Memphis qui s'appelle Juvenile Court, je crois que tu l'as vu, Didier,
oui.
En 1973.
Magnifique.
Celui dont je parlais, Welfare, qui était en 1975, qui est un centre d'aide sociale à New York, qui était absolument magnifique, c'était hyper intéressant. Il a toujours la même manière de filmer, c'est-à-dire qu'il pose sa caméra, il n'y a pas d'interaction, il filme. C'est au montage qu'il va créer son film. Il y en a qui peuvent durer très longtemps, d'ailleurs. Je crois que Welfare durait 4 heures, c'est ce que tu disais.
4 heures.
C'est toujours, depuis 60 ans, c'est toujours la même méthode. Hein. Sans thèse, ni a priori. Il fait confiance à son instinct, à son jugement, et au hasard. Donc il tourne beaucoup, beaucoup, jusqu'au bout les événements, comme ils viennent. Il refuse tout commentaire en voix off, toute musique et toute interview. Parce que toute interview tourne au didactisme, oriente et détermine la réaction du téléspectateur. Or, moi, je veux qu'il se fasse une idée, tout seul. comme il le fait dans la rue, avec ce qui se passe devant lui. Donc le tournage, quelquefois, dure de 7 à 12 semaines. Et le montage s'étend, lui, sur un an.
Oui, parce
qu'il a tellement de rush.
C'est 4 heures pour je ne sais pas combien d'heures de film. Bon, c'est extraordinaire. Bon. Un humanisme. Je veux dire, y a des... c'est un documentaire, mais on part avec en tête des vrais personnages. Des fois,
on s'attache aux personnages,
un profond attachement.
Dans l'hôpital, c'était ça, avec les médecins qui essayaient désespérément de soigner les gens. Il y avait une bienveillance, le soin.
Les flics de New York. C'est vraiment une vision du monde assez incroyable. D'ailleurs, ça nous fait réfléchir à cette époque, parce que du coup, on regarde la nôtre avec un regard beaucoup plus critique. Moi, c'est comme ça que quand je suis sorti des projections, je me disais, mince, une société qu'on imaginait extrêmement dure aux États-Unis, et finalement beaucoup d'humanité.
Plus d'humanité, plus d'humanité qu'on le pensait, peut-être. Oui. Même dans Welfare, dans l'institution d'aide sociale, c'est pareil, il y avait énormément de bienveillance parmi les aides, il y avait un sentiment de... on ne se sentait pas perdu. Enfin, les gens ne se sentaient pas perdus, se sentaient accompagnés. Et ça m'a profondément touchée, en fait, ayant vécu ça. Donc,
en plus, oui.
Oui.
Non, mais... et 4 heures, on dit que c'est long, mais non.
Non. On était
parti pour plus longtemps. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que ces documentaires, on puisse les repasser un jour. Là, je regarde.
J'étais en train de me dire aussi pareil.
Mais il a fait il a fait des documentaires en France aussi.
Oui.
Il faut se rappeler. Il a fait
le
ballet de l'Opéra de Paris.
Ouais.
Les Trois Gros et Crazy Horse.
Le Crazy Horse.
Voilà.
Bon, je l'ai vu, il n'est pas extraordinaire.
Et le Menu Plaisir, ouais.
Et puis après, il est retourné aux États-Unis, hein, c'est ça?
Non, il habitait en France.
Oui.
Alors, j'aime bien parce qu'il dit « J'ai commencé par une prison pour fous et j'ai fini dans un restaurant de folie. »
Oui, c'est exceptionnel. Ouais. Et alors, en aparté aussi, c'est que on voit bien que c'est plus qu'un documentaire puisque Welfare a été transformé en pièce de théâtre, hein, une pièce qui a été montée par Julie Deliquet et qui a été récompensée au Festival d'Avignon en 2023. Donc, on voit bien à quel point
Il a travaillé d'ailleurs. Ouais. Il a travaillé avec elle.
À quel point le sujet était riche, quoi.
C'est l'humain et l'humanité, et voilà, c'est ça aussi. Ça nous met en face de notre humanité, ce documentaire.
Alors, on peut se donner rendez-vous, alors, peut-être, au cinéma de Millau.
On verra.
Pourquoi pas.
C'est quatre. Hein.
Ouais.
Bon.
C'est une bonne idée, Didier. Ouais.
Voilà. Alors, les documentaires, y a les anciens et puis il y a les nouveaux. Puis je crois qu'on a la chance d'avoir une programmation cette semaine d'un documentaire.
Vraiment très intéressante. Dans le cadre d'un festival qui s'appelle Best of Doc et que auquel le cinéma participe chaque année. Hein, et voilà, et cette année, c'était bien parce que... Une des propositions était parfaitement en accord avec une envie aussi de Millau en jazz.
Oui, tout à fait. Je crois que nous, on est toujours très heureux de mettre en place des partenariats avec l'ensemble du milieu associatif et culturel Millavois, et en particulier avec le cinéma. C'est pas la première fois et ça sera sûrement pas la dernière. Et là, on a décroché une petite pépite. C'est un docu qui s'appelle Soundtrack Coup d'État. En fait, qui pose une question, c'est est-ce que le jazz peut-il être une arme politique ? Et c'est la question centrale posée par ce documentaire, donc qui a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Johan Guillemont-Pré, et qui est à la croisée de l'art, de la géopolitique et de la mémoire postcoloniale. Le film explore comment une musique née de la résistance et du métissage est devenue la bande de son d'une lutte plus vaste, celle de la liberté et de la dignité des peuples. On sait que cette musique-là est née il y a maintenant une centaine d'années et qu'elle est née effectivement en révolte avec le colonialisme et l'impérialisme américain, puisque c'était effectivement au départ cette musique, elle est née des champs de coton et de la révolte des Noirs américains. Et en fait, le pitch de ce film, ça se passe en 1961, au plus fort de la guerre froide, l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était la figure de l'indépendance congolaise, provoque une onde de choc dans le monde entier. Tandis que les grandes puissances manœuvrent en coulisses, deux musiciens et militants décident de porter la contestation sur la scène la plus improbable, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ils interrompent une session officielle et ils dénoncent la complicité tacite des États occidentaux dans le cadre de ce crime politique, un acte symbolique audacieux et profondément musical. Je crois qu'effectivement, cet acte a marqué effectivement l'histoire de cette musique et l'histoire de cette lutte portée par les musiciens nord-américains sur justement tout le colonialisme qui était emprunt aux États-Unis et en Europe à cette époque. Donc voilà, c'est un film qui a été monté, qui est à la fois un docu, mais qui a été monté avec une richesse incroyable d'images.
Oui.
Il a été cherché dans des archives.
Ouais.
C'est un film qui dure deux heures, mais qui est passionnant, qui nous raconte vraiment l'histoire de cette musique. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point cette musique a du sens et elle a vraiment une dimension militante. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque où... où la Hayes assassine à Minneapolis et on voit ce qui se passe encore aux États-Unis par rapport aux Noirs américains et comment aujourd'hui les artistes encore essayent de s'emparer de ça et de donner leur voix et d'engager un discours militant contre les droits civiques qui sont vraiment bafoués. Et malheureusement, ce film aujourd'hui nous arrive 60 ans après et encore un écho très fort. Il s'avère qu'aujourd'hui, le langage militant des artistes est plus entendu, malheureusement, et pas entendu parce que on sait que les médias aujourd'hui, ou l'intelligence artificielle, ou les GAFAN, sont à la botte de Donald Trump et qu'aujourd'hui, cette contestation n'arrive plus à se faire entendre. Et c'est par ce biais de ce type de film, de documentaire, qu'on se rend compte de l'importance de l'engagement de ces artistes et de cette musique dans ce combat très militant et très, très, très juste sur la cause des minorités, sur la cause noire américaine en particulier, quoi.
Et tu nous dis quand ça passe, c'est demain. Donc
exactement,
vendredi.
C'est vendredi à 20h. Franchement, ça.
Notez bien vendredi.
Venez écouter ce film, venez le découvrir. Il a vraiment du sens et franchement.
Réel intérêt hein, historique, politique.
Ouais.
Et il est accompagné par un critique cinéma, Thomas Puteau, qui sera là aussi hein, pour discuter sur le film après.
Ouais, voilà, donc n'hésitez pas si
venir nombreux.
Je crois que c'est de quand on dit que le jazz est tel que Million Jazz le défend, il a vraiment une dimension militante et c'est encore vrai aujourd'hui et ce film nous le rappelle. Et voilà.
Donc, je suis content de quand on parle musique et militantisme. D'ailleurs le petit morceau qu'on va passer là, c'est un exemple actuel. Alors, c'est pas tout à fait militant, mais c'est ça soutient hein. Donc il y a un disque qui vient de sortir qui s'appelle Help, qui est produit par une association qui vient en aide aux enfants victimes de la guerre, qui s'appelle War Child. Un disque qui contient 15 albums de très grands artistes contemporains. Et je vous propose d'écouter donc un morceau d'Arctic Monkey qui s'appelle
Super.
Open Night.
Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side.
suitable space. Mystery boxes from which you cannot escape. Sticking your neck out in a spiritual way.
Amio, la programmation de cette quinzaine
La programmation, elle est vraiment très très variée, cette quinzaine. Vous allez trouver, comme d'habitude, des films très très grand public et des films plus petits. Et c'est pour ça que j'avais envie d'attirer votre attention dessus. Et on reste en musique en plus. Avec le.
Je te sens venir là.
Et oui, c'est vrai. Mais oui, complètement.
Deux choses qui nous relient en fait. Ouais.
En fait, là, on reste avec sur Philippe, la musique parce que moi, j'attire votre attention sur un film que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Le son des souvenirs, d'un réalisateur qui s'appelle Oliver Hermanus. Et vous allez retrouver deux grands acteurs, Josh O'Connor et Paul Mescal, qui sont absolument magnifiques dedans. L'histoire, en quelques mots, on est un peu à la fin de la Première Guerre mondiale. Et Lionel, qui a grandi dans le Kentucky, bercé par toutes les chansons traditionnelles, il s'en va à Boston pour étudier au conservatoire, et là, il y rencontre David, qui lui aussi est musicien. Il se noue quelque chose entre les deux. Ils sont séparés et se retrouvent le temps d'un été, où là, c'est vraiment très, très beau. Ils vont sillonner toutes les forêts du Maine pour collecter les chants traditionnels, les chants qui ne se transmettent qu'à l'oral et où donc il n'y a rien, voilà, ils collectent, ils enregistrent tous ces chants pour les conserver. C'est beau, c'est délicat. Alors, pour ceux qui ont vu, effectivement, moi j'ai aussi trouvé un petit quelque chose du secret de Brokeback Mountain.
Ah ouais.
Voilà, il y a un petit quelque chose dans cette idée de ce prétexte pour se retrouver. Mais là, l'homosexualité n'est pas un problème dans ce film-là, ce qui n'était pas le cas dans Brokeback Mountain. Voilà, donc à voir. Vraiment, je vous conseille, c'est un très 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 beau moment.
Avec deux très bons acteurs.
Avec super, des acteurs, ouais. Et puis alors les deux ensemble, c'est magnifique.
Ouais, il vraiment est passé plusieurs fois, hein, donc c'est difficile de le rater.
Oui, 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 il est programmé plusieurs fois, donc voilà, à aller voir. Et un autre aussi que j'avais choisi pour d'ailleurs pour les, mes fameuses séances à l'aveugle dont je vous ai déjà parlé. Et c'est un film qui se passe à Beyrouth et qui s'appelle « Un monde fragile et merveilleux » de Cyril Harris. Et là, on est sur l'histoire de Yasmina et Nino qui tombent amoureux dans la cour d'école. Et ils se retrouvent dans des entrains abandonnés pour rêver à un avenir radieux, un avenir meilleur. Quelque chose les sépare et ils se retrouvent par hasard 20 ans après. C'est l'amour fou, incandescent. Et seulement, voilà, comment on se construit, comment on vit l'amour, comment on a encore envie d'avoir des enfants dans un pays qui est toujours incertain. Qu'on peut avoir envie de quitter ou envie de rester. Voilà, ce sont toutes ces questions qui sont posées dans ce film, avec beaucoup d'humour aussi, et beaucoup de joie et de légèreté, parce que comme l'explique le réalisateur, il dit qu'il serait faux de montrer quelque chose de grave, parce que partout, même là où il y a des choses grave et difficile, ben, les gens continuent d'être heureux, de rire et d'aimer.
Il est programmé quand ?
Ben, plein de fois aussi.
Dès cette semaine ?
Honnêtement, alors je ne sais plus.
Non, mais bon.
C'est soit cette semaine, soit la semaine...
Parce que je ne le retrouvais pas cette semaine, c'est pour ça.
Non, il est à partir
du
18.
Pour aider tous nos amis qui vont se précipiter au cinéma.
Il est à partir du 18. Voilà, celui-là. Et après, il y a aussi d'autres documentaires, d'ailleurs, qui peuvent être, je pense, intéresser pas mal de monde, avec à chaque fois la réalisatrice. Le mardi 17 mars à 20h, vous avez un documentaire qui s'appelle « Transition sous tension » et qui nous amène dans l'Allier, où est exploité le lithium. Voilà.
Ouais, oui.
Exploitation de lithium. La réalisatrice sera là pour vous en parler. Et le dimanche 22 mars à 17h, Mbuda, la source des chimpanzés. Et vous aurez la réalisatrice et la biologiste qui est dans le documentaire, qui vont venir nous parler d'une population de chimpanzés que cette biologiste a retrouvé la trace en 2018 au Congo. Donc on part au Congo, les images sont absolument magnifiques, une très très belle balade là.
Programmation éclectique, hein, entre lithium et
mais oui,
chimpanzés.
Oui. Ah. Chimpanzés, ouais. Programmation à nouveau, si vous avez manqué ceux qui ont été sacrés meilleurs films et meilleurs documentaires, vous allez pouvoir retrouver, vous allez vous rattraper. Puisque l'attachement repasse au cinéma, ainsi que Le Chant des Forêts, qui est vraiment effectivement un très beau documentaire.
Deux films qui ont eu un succès peut-être inattendu. Non, Le Chant des Forêts, je crois que c'est fait les plus grosses entrées nationales.
Oui.
Donc ça récompense un sujet.
Un sujet. Vincent Munier, il commence quand même à avoir son public. Hein. Il commence un petit peu depuis La Panthère des Neiges. Il a son public.
Donc il a fidélisé.
Il a fidélisé. Et c'est vrai que Ce Chant des Forêts, que j'ai vu aussi, c'est un magnifique moment. Hein, c'est un magnifique moment. Il y parle aussi de transmission, puisqu'il y est avec son père, qui lui a tout enseigné, en fait, hein, qui lui a appris la forêt, les animaux, et à savoir les regarder, les écouter. Et il y a le fils, et son fils à lui, auquel ils transmettent cela aussi. Et on parle aussi de toutes des espèces qui sont en train de disparaître. Il y a aussi beaucoup de ça dans...
Tu as remarqué beaucoup de jeunes spectateurs ? Non ?
Ah si !
C'est pas parce qu'on cherche toujours comment faire revenir les jeunes dans ces salles de cinéma. Tu penses que c'est avec des films comme ça ? Peut-être ? Non ? Moi, j'ai aucune idée, hein, parce que je...
Là, mais ouais, il y avait... je pense pas, non, que la majorité,
non.
C'était des
on
jeunes.
On n'y va pas en famille, non.
Mais par contre, si. Ouais. J'ai vu des familles. Si, si, si. des enfants, les gens qui ont amené leurs enfants.
Oui, pour des films d'enfants, oui, des dessins animés, des films d'animation.
Non, non, pour celui-là.
Ah d'accord.
Pour celui-là, si, si.
Ah ouais.
Si, si, si.
Ah mais c'est bien.
Non, non, il y a... Oui, c'est un beau film, hein. C'est un très beau film.
Et puis tu parlais de L'Attachement.
Là, et L'Attachement.
Qui a été...
Ben, meilleur film, hein, meilleur film sacré.
Là aussi, c'était pas forcément le film attendu, peut-être ouais. pas, mais bon, là on parle des, si je me trompe pas, des Césars.
Des Césars, oui.
Hein. 2026, ouais, oui.
Pour le coup, il y avait quand même pas mal de films en compétition, et c'est celui-ci.
Et pas mal de très bons films. Très, très alors bon c'est film. Vrai qu'on peut se demander, voilà, pourquoi celui-ci Moi, je crois que c'est parce que les gens, ils ont... Enfin, parce que tout le monde a besoin de bienveillance et que c'est des films.
On se posait la question, d'ailleurs.
Ah, mais moi, je me pose la question. Ouais. Et
c'est un feel-good movie, comme diraient les Américains.
C'est un film très bienveillant, oui. Où tous les rapports entre les gens sont apaisés.
Voilà, c'est ça, oui.
Tous. Ouais. C'est-à-dire que tu as le rapport entre... Même entre les ex, entre les... Tout le monde est toujours... Il n'y a pas de cri, pas d'agitation, pas de...
Puis un enfant.
Et un enfant, enfant là, au milieu. Non, je pense que c'est peut-être ça. Des rapports apaisés entre les gens, réellement.
Alors moi, je vais poser la question. Est-ce que vous n'avez pas été surpris que Sirat n'ait pas été récompensé?
Oh, mais si.
Que pour moi, c'est une pépite.
Mais pas ouais, pareil. Mais, hein.
On en avait
c'est
parlé.
C'est sûrement le plus beau film de la décennie, quoi. Enfin, voire
et
même du siècle, quoi.
Moi, je suis bien d'accord.
Incroyable.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais le masque l'avait récompensé, enfin entre guillemets,
oui, tout à fait.
Pas récompensé, mais identifié comme je crois, le meilleur film. C'est pas un film français, c'est peut-être pour ça.
Parce
que le meilleur film étranger, je me rappelle plus lequel.
Mais moi non plus, voilà. C'est terrible.
Ah si, si, c'est un film de Paul Thomas.
Le PTA, oui.
Paul Thomas Anderson, à chaque fois je bute sur le
une bataille après l'autre.
Une bataille après l'autre.
C'est ça, c'est
ce qui est
ça.
Aussi. Alors, c'est pas du tout le même type, c'est pas Sirat. Hein. C'est pas Sirat, mais bon. Ah oui, le masque là, l'avait aussi récompensé. Ouais, c'est surprenant, mais il y avait quand même pas mal de bons films. On peut pas dire ça de chaque. Chaque année, enfin en tout cas au niveau
oui,
du cinéma français.
Oui, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que l'année 2025 a été une année catastrophique pour le cinéma, et pourtant, il y avait...
Du point de vue qualitatif.
Et pourtant, il y avait de très... Il me semble, il y avait de bons films, oui.
Bon, et puis il y a, pour changer un tout petit peu de sujet, enfin on reste sur le cinéma, il y a un film, je crois qu'il y a Mastermind, hein, que tu passes, il était passé en avant-première.
En avant-première pendant le Festival Télérama.
Et maintenant,
oui, c'était dommage. Ouais. Voilà. Je m'étais dit que c'était dommage s'il ne repassait pas, et puis finalement il repasse, donc tu
ben oui, bien sûr. Bah, il faut que, dès qu'on arrive à trouver un peu de place.
Ouais. Ah ben moi, je suis content, je vais pouvoir le voir.
Pour les amoureux de Kelly Richard, c'est un grand plaisir. Voilà. On la retrouve avec sa manière d'utiliser la caméra presque comme des mains, on va dire. Elle se rapproche des personnages. C'est une scénariste qui prend son temps, donc c'est lent. On n'est pas, voilà, c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ça. Donc elle caresse les personnages. On voit par exemple le personnage principal qui enfile son pantalon en temps réel. Donc on peut se dire, tiens, c'est bizarre, où qu'il va. Enfin, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais voilà, c'est un film lent, mais c'est très, très, très beau. Par contre, la première partie, donc. Justement, Philippe, tu parlais de jazz. La première partie, qui est l'histoire d'un hold-up raté, on va dire, et qui est tournée un peu dans les esprits des années 1970, on va dire, avec même les couleurs un peu passées. On va dire vraiment, elle a essayé de ramener un peu cette espèce d'atmosphère de vieux films de braquage. Et donc, pendant toute cette première partie, on a du jazz. Impro, je ne sais pas comment on appelle ça.
Oui, quel type de
free
jazz.
Free jazz. C'est il est très très fort en fait ce son. Et pour moi qui ne suis pas fan de free jazz, je veux dire que ça m'a un peu gênée. Et après, elle s'est rattrapée.
Je ne suis pas surpris qu'elle ait mis cette musique sur un film qui se passe dans les années 70.
Voilà.
Puisqu'effectivement, le free jazz, c'est vraiment un courant musical qui a existé dans les années 60, fin des années 60, voilà, début des années 70, qui était... une façon de casser les codes. C'est un peu l'après 68 pour nous en France, mais aux États-Unis aussi, avec toutes ces révoltes. Et du coup, c'était une manière de dire on casse les codes et du coup, on déstructure tout, quoi, y compris la musique.
D'où le choix de la musique.
Ça a un peu ses limites en tant qu'auditeur. Hein, je...
Oui. Parce que ça veut dire quand même toute la première partie.
Ça peut, ça peut bousculer un peu. Ouais, ça peut irriter.
Ce que tu racontes, c'est intéressant.
Ça a du sens parce qu'effectivement, c'était vraiment, on casse tout, on casse les codes et on déstructure tout et on se révolte. Quoi. C'est une façon d'exprimer une révolte.
Philippe, tu l'as vu le film, non ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Et le film est magnifique, mais la fin, c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment l'histoire d'un loser. Enfin, je veux pas trop, c'est quelqu'un qui décide de voler quelque chose, et finalement le film c'est pas tellement le braquage lui-même, donc avec le jazz, justement, que la seconde partie c'est comment il vit après ce braquage raté, justement, ce qu'il devient, parce que ce personnage qui s'affranchit de tout, parce que son père est juge, tout ça, donc il peut effectivement faire un peu ce qu'il veut, se retrouve un peu à la fin rattrapé par le monde, c'est la guerre du Vietnam, c'est tout ça, donc on a tout ça en parallèle, et c'est hyper intéressant du coup. Dans les films de Keith Richards, de toute façon, pour moi personnellement, c'est toujours un grand plaisir. Elle a fait Old Cow, elle a fait elle a fait tellement de toute façon que River of Grass, tout ça, et toujours on retrouve cette manière de filmer les gens au plus près, et donc je recommande The Mastermind.
Enfin, en tout cas, elle n'a pas mis cette musique par hasard, sans
non,
doute.
Non, voilà, c'est ça qui est intéressant. Je me demandais pourquoi. Hein,
voilà.
Je pense que ce courant free musical, chez le jazz, on le retrouve aussi dans le cinéma. C'est vrai qu'à ces périodes-là, les Godard et autres réalisateurs de cette époque ont aussi cassé les codes avaient envie.
D'abord
de...
avec le jazz,
tout à fait.
aussi, avec des musiciens qui avaient une vie.
Je crois qu'il y a eu ces périodes où l'art se cherchait un peu et voulait justement se casser les héritages et avoir son propre mode d'expression, quoi.
Exact.
Et on le retrouve en peinture, on le retrouve dans l'architecture.
Et oui, c'est tout à fait ça, effectivement.
D'où le travail justement de Keith Richards, parce que c'est vrai que tous les détails qu'elle porte dans les costumes, dans la musique, donc du coup, parce que maintenant tu m'expliques pourquoi cette musique extrêmement forte dans le film, qui un peu décourage un petit peu quelqu'un comme moi. Mais après,
je pense que
maintenant je comprends pourquoi. Et du coup, je salue son choix, du coup. Voilà, maintenant j'aimerais le revoir justement avec cette perspective.
Mais alors, il est supporté parmi autres gens. Alors, si j'ai bien compris, on a oublié de le dire là.
Il faut le voir parce que
il est magnifique. C'est vraiment un film qui touche énormément.
Le 14 à 18h30, le 15 à 10h30, le 16 à 16h et mardi 17 à 20h45. Donc voilà, vous avez aucune raison de ne pas aller le voir.
Et vraiment, je vous le conseille.
Et puis alors, on va peut-être finir quand même par un autre film qui est un certain succès pour ceux qui aiment le ping-pong, enfin pour les sportifs de l'émission.
Marty Supreme.
Hein, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas encore vu et je crois que c'est
très
plutôt bien.
Oui.
Hein, c'est un film en costume, hein. Non.
Non.
Ouais,
costume
de ping-pong.
J'ai été le voir et ça m'a surpris, ouais.
Il est beau, le film.
Le film est beau,
Il est bien fait.
Le film est beau, c'est étonnant. Parce
qu'il paraît qu'il y a un rythme fantastique, survitaminé.
Oui.
Quelle étonnante image de l'Amérique qu'il donne aussi. Parce qu'en fait, je suis sorti là en disant, mais ce qui est étonnant, c'est que tout est basé sur le mensonge dans ce film. Tout le monde ment.
Mais c'est un horrible personnage. Il est manipulateur, il est menteur.
Tout le monde
ment. C'est un criminel.
Sa mère ment. Enfin,
le caractère principal. Chalamet, il est odieux, ce type. Il joue très très, très bien, il n'y a pas de souci. Et même, on arrive à le faire. Il est moche.
Ah non, mais
ils ont fait un visage, vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est à ça à l'heure.
Construit sur le mensonge, je me dis, mais c'est peut-être aussi cette société américaine.
C'est métaphorique.
Oui, complètement. Et cette société américaine est complètement. On le voit encore aujourd'hui.
Non, mais ce n'est pas ce que Safdie a dit. Safdie, il dit justement, c'est pour montrer qu'en Amérique, on peut faire, on a envie, on peut faire ce qu'on veut. C'était son message. Moi, ce message m'a choqué un petit peu parce que je voyais exactement le contraire.
Si tu le bats sur le mensonge, tu peux faire ce que tu veux.
C'est le réalisateur qui dit, quelqu'un comme Chalamet, donc qui est un petit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, cordonnier ou je ne sais pas quoi, qui essaie de devenir le champion de ping-pong au monde, si tu veux, le premier. Donc. Et il se retrouve avec ses mensonges, avec ses manipulations, avec des crimes, enfin avec des trucs odieux. Il se retrouve finalement dans un faux combat. On ne va pas le dire, mais dans un vrai combat, non, mais il y a un vrai combat, mais tu te dis, mais, et quand tu l'entends, quand tu as le réalisateur qui dit, moi je veux montrer qu'aux États-Unis on peut arriver, quand on vraiment veut arriver, on peut y arriver, je me dis, moi c'est pas le message que j'ai reçu.
Non, c'est un leurre, non.
Je me suis dit, non, pas du tout. C'est pas, voilà.
On va conclure là-dessus, alors. Hein.
À voir quand même, très intéressant.
À voir, absolument. Oui, absolument.
Faites votre opinion.
Voilà, je suis content.
Surtout qu'en plus, j'allais oublier de le dire, mais du 22 au 24 mars, c'est le printemps du cinéma. Donc, oui. À 5 euros.
Oui.
Oh, ah ben oui, tu oubliais.
Oh là là.
Bon, mais ça, on va en reparler.
5 euros.
On va en reparler.
Donc, c'est le moment d'aller au cinéma.
Pas d'excuses. Hein. Et Annick, tu voulais peut-être faire une pré-annonce.
Oui,
hein.
Alors pré-annonce. Alors, le mois d'avril, c'est la quinzaine lusophone. Alors, donc, on a 3 titres. On va vous passer, donc, avec le comité Mio Melada, on va vous passer Grand Tour, on va vous passer Les Voyages de Teresa, qui vient de sortir, et ensuite un grand classique, Centro du Brésil. Donc, à bientôt en avril, et on en reparlera plus tard dans la prochaine émission.
Dans la prochaine émission, voilà. On présentera tranquillement, parce que ça mérite de parler de ce cinéma aussi dynamique. Bon, bah, écoutez,
et merci Muriel de
on va vous souhaiter une bonne quinzaine. Hein.
Merci.
Vous êtes d'accord, nos éditeurs, il faut les cajoler. Hein. À bientôt.
Bonsoir à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, bye bye.
Ciao, ciao.